Some hand in hand, and some gathered together in bands. The bleeding hearts and the artists make their stand. And when they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. Banging your heart against some mad bugger's wall.
CVRP vous présente dans sa série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Sang d'ivresse pour la vie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Deux heures du matin, ses pas résonnent dans la rue déserte. Tout à coup, il voit à terre un portefeuille. Il le ramasse et va, sous un réverbère, l'ouvrir. À peine ouvert, tombe à terre une photo qu'il prend. Elle est noire et blanche. La jeune fille qui est dessus semble à peine sortir de l'adolescence. Elle est blonde, le visage pur, mais un rien étrange. Après avoir bien regardé la photo, il ouvre le portefeuille. Papier d'identité, permis de conduire, billet d'avion, une lettre dans son enveloppe. Reprend la carte d'identité et lit « Clara Mauroy, 1973, mannequin, 30 rue du Doyenné. » Il referme le portefeuille et continue sa marche. Il entre dans un immeuble. Numéro 5 de la rue du Doyenné, vieil immeuble cossu au début du siècle, pas d'ascenseur, monte jusqu'au troisième étage. Un trois pièces meublé avec de vieux meubles de famille. Quitte son manteau qu'il met sur une chaise. Et va dans sa chambre sans éclairer. Sans éclairer non plus, il commence à se déshabiller. La lumière s'éclaire. Il se retourne et voit au lit sa femme.
Ça, c'est dans là que tu rentres.
J'avais la comptabilité à finir.
Elle hausse ses épaules et dit
« Le magasin a un bon dos. Tu sais très bien que je ne supporte plus que tu me trompes. »
« Mais je ne te trompe pas. Je vais sûrement le faire si tu continues. »
Elle hausse ses épaules.
« Finis donc de te déshabiller. »
C'est ce qu'il fait. Il est grand, mince, les cheveux qui grisonnent un peu. Après avoir mis son pyjama marine, il se couche auprès de sa femme. Elle a 30 ans, 10 ans de moins que lui. Cheveux blonds, visage grave. Elle éteint la lampe de chevet. Il s'est tourné de l'autre côté. Elle soupire et se tourne de l'autre. Le lendemain matin, le réveil sonne à 8h. Arthur Gaillard se lève en évitant de la réveiller. « va à la fenêtre voir le temps qu'il fait.
Il pleut, dit sa femme.
Comment le sais-tu ?
Il pleut toujours dans ce pays. S'il ne pleut pas, c'est qu'il va pleuvoir. Je n'aime pas cette ville. Le ciel est toujours gris. L'humidité rentre de partout, même dans les corps.
Tu exagères.
Je n'aurais pas dû me marier avec un Lyonnais. Moi, je viens du soleil.
Il prend ses vêtements.
Tu déjeunes ici ?
Non, j'ai rendez-vous avec un client.
Il sort de la chambre pour aller dans la salle de bain.
Arthur et Jeanne, cela fait 10 ans qu'ils sont mariés. Elle est devenue soupçonneuse car elle pense qu'il s'est marié pour son argent et la hantise de vieillir. La peur de ne plus pouvoir plaire. À force d'être soupçonneuse et de soupçonner, il ne s'aime plus. Arthur, pour oublier, s'enivre dans son travail. Il est directeur commercial dans une maison de prêt-à-porter, avenue de Saxe.
Arrivé à son bureau, en quittant son manteau, il se souvient du portefeuille et de la photo. Il sort le portefeuille de la poche de son manteau et va s'asseoir à son bureau. Le portefeuille est en cuir de serpent marron. Il l'ouvre. Il en retire la photo. Beau visage. Il caresse la photo avec sa main. Puis, il sort les papiers du portefeuille. Il lit l'adresse sur la carte d'identité. Existe un moment, puis prend son téléphone et fait le numéro des renseignements.
Bonjour mademoiselle, j'aimerais le numéro de téléphone de mademoiselle Claire Mauroy, 30 rue du Doyenné, Lyon 5e.
Pas d'abonner à ce numéro, monsieur.
Merci.
Il regarde encore la photo et la remet dans le portefeuille.
durant toute la journée, n'a fait que penser à la demoiselle qui se trouve sur la photo. De son travail à 18h. Arrivé au numéro 30, il hésite un peu, puis entre dans l'allée. Juste où sort de sa loge la concierge. Une grosse et petite femme en blouse bleue.
Vous désirez, monsieur ?
Mademoiselle Clara Mauroy.
Elle est absente.
Vous ne savez pas quand est-ce qu'elle reviendra ?
Pas avant une semaine.
Bien, au revoir, madame.
Dehors, il commence à pleuvoir. Ce temps le met de mauvaise humeur. Ça le ramène à sa femme. Il n'a pas envie de rentrer.
Elle va encore me faire des scènes. Parce que cette fois, je rentre plus tôt que d'habitude.
Il entre dans un café.
Ne mangez pas, c'est moi.
Sans le bâton, là.
Aïe, merde, putain, puisque je t'ai dit qu'avec 4 bières, t'as sur à rien.
Arrête pas, tu vas où, toi ?
Calme-toi, toi.
Je prends bien pour moi 4 pour que je t'en vais complète.
Oh là.
Et à 25, t'es bon pour les Olympiades.
Non, non, non.
Et commande un demi, puis deux, trois. Sa colère montre contre sa femme qui le force à rester ici, bêtement, à boire dans cet endroit moche. Aux gens sinistres. Dans le café, il est encore là à boire, la nuit est tombée. Mettant la main dans sa poche pour régler ce qu'il boit, sa main rencontre le portefeuille. Il le sort avec son porte-monnaie.
Peut-être est-elle là, si j'allais voir.
Il paye et sort. La pluie, l'air frais lui font du bien. N'est pas ivre, mais il est plutôt triste et veut quelque chose pour oublier ou pour changer sa vie. Quelque chose de radical, un coup de poing. Arrivé devant le mur numéro 30, il entre sans hésiter. Il regarde sur les boîtes aux lettres. Troisième étage. Pas d'ascenseur. L'allée est quelconque. Triste. Arrivé au troisième, au moment où il va sonner, il voit que la porte est entrebâillée, la lumière allumée, il pousse la porte.
Mademoiselle Clara.
Pas de réponse. Il entend un bruit. Entre.
Mademoiselle.
Il se dirige vers le bruit qu'il a entendu. Grand ouverte. On voit la pièce meublée de meubles laqués blancs. À terre, au pied du lit, couché de dos, en chemise de nuit courte blanche, tachée de sang. Il y a même du sang de partout, sur les murs, le lit, le parquet.
Il manquait plus que ça.
Il entre dans la pièce. Réfléchit et dit
« Il le faut. Mon Dieu, que de sang. Comment vais-je faire pour nettoyer tout ça ?»
Il quitte son manteau, sa veste.
Il se sent bien. Se penche vers le corps et soulève le haut de la chemise de nuit. Le corps est plein de balafres.
Il regarde sa montre.
20 heures. Elle va encore dire que je rentre tard. Dépêchons-nous de nettoyer. Allons à la cuisine chercher ce qu'il faut.
Il entend une porte qui claque. Il se lève pour aller dans la cuisine. Là, il trouve dans le placard un seau, une serpillière et un balai. Rempli d'eau le seau. et retourne à la chambre pour nettoyer le sol.
Je nettoyais tout ça. C'est la faute à Jeanne si elle ne me poussait pas à bout. C'est dur, les taches résistent. Comme si j'avais le temps d'avoir une maîtresse.
Ses gestes sont énergiques. Il ne pense à rien. Absolument rien. Il ne sent rien. Il frotte. Après une heure de nettoyage, le parquet est propre. Il n'a pas touché au cadavre et ne l'a même pas regardé. Il enlève les draps nerveusement pour les porter à la cuisine. Où se trouve la machine à laver. Il les met dedans.
Je ne vais pas mettre en route la machine. Il est trop tard. Il en verra que j'ai pensé à le faire laver.
Il retourne à la chambre pour donner un dernier coup de serpillière sur les meubles.
Je peux partir tranquille.
Remet son manteau, sa veste et sort de l'appartement.
Je suis trop fatigué pour me dénoncer. Mais qu'est-ce que je dis, puisque j'ai tout nettoyé?
Arrivé chez lui, il est 2h du matin. Dans la salle de bain, en se déshabillant, il voit que son pantalon et sa chemise ont reçu des éclaboussures.
Faut que je nettoie cela.
Quitte son pantalon et sa chemise et sous l'eau du lavabo, avec du savon, il essaye d'enlever les taches. Il a chaud, la tête lui tourne, ses gestes sont nerveux. Et machinalement,
qu'est-ce que tu fais?
Il sursaute et se tourne. C'est sa femme en chemise de nuit.
Que fais-tu?
Moi, rien.
Qu'est-ce que ces taches que tu essayes d'enlever?
Je ne sais pas. C'est les taches. Il faut que j'enlève.
Il se remet à frotter son pantalon.
Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tu es complètement fou. à 2h du matin, laver le linge? Où as-tu traîné encore pour être tout sale?
Tais-toi, laisse-moi, j'ai mal à la tête. J'ai une journée pénible.
D'où ses épaules.
Et une soirée aussi. Qu'as-tu fait?
Rien, tout ça est de ta faute.
Il sort le pantalon du lavabo, qui est tout trempé. Il veut le déposer sur l'étendage qui se trouve à la fenêtre. Mais tout à coup, sa vue se trouble, tout tourne et il tombe à terre.
Il manquait plus que ça.
Elle se penche, le retourne. Il a vomi sans faire de bruit. Elle le tire l'un du vomi. Et le laisse à terre.
Pardonne-moi, mon vieux, mais tu es trop lourd pour moi. Tu es trop lourd pour moi, tu comprends?
Un peu plus tard, inquiète, après avoir nettoyé le lavabo, c'est tout taché, la chemise, le pantalon, elle va vers le porte-manteau qui se trouve sur la porte de la salle de bain. C'est là qu'il a mis son manteau pour lui faire les poches. Trouve le portefeuille, l'ouvre. Une heure plus tard, dans sa chambre, elle remet en place ce qu'il y avait dedans après les avoir regardés et regardés. Puis, elle va le mettre dans l'armoire entre ses draps. Le lendemain matin, Arthur se réveille, mal à la tête, la langue pâteuse, douleur dans les membres. Il voit les pieds de John, lève la tête.
« Excuse-moi, mais tu étais trop lourd pour moi. J'ai pas pu te mettre au lit. Tu vas mieux ?»«
J'ai mal de partout. »«
T'as eu une sacrée cuite. Tiens. »
Elle lui tend un verre.
« Qu'est-ce ?»«
De l'aspirine. »
Il prend le verre et boit, puis... bouge vers à terre.
Tu ne te souviens ce que tu as fait cette nuit?
Non.
Cela vaut sûrement mieux. Ta chemise et ton pantalon sont dans la machine à laver. Tu peux te lever?
Oui.
Il se soulève. Elle l'aide.
Je crois que tu ferais mieux de ne pas travailler ce matin. Tu vas aller au lit.
Arthur passe la journée à dormir. Jeanne est allée à ses occupations. Elle est secrétaire chez un petit éditeur. Le soir, lorsqu'elle revient, il dort encore.
Poste Parisien. Chers auditeurs, notre émission va se poursuivre par l'audition de l'ensemble vocal de Théodore.
Ce n'est que tard dans la soirée qu'il s'est réveillé. La chambre est dans le noir. Il entend le bruit de la radio dans la pièce d'à côté. Il se lève et va dans la pièce d'à côté où se trouve sa femme qui écoute la radio. Il s'assoit sur le canapé à côté d'elle. Tu vas mieux ?
Oui. Merci.
Ce n'est rien. Tu avais trop bu. C'est tout.
Oui, c'est tout. J'avais trop bu.
Tu te souviens vraiment de rien ?
Non. Je ne vois pas.
N'y pense plus. Tu veux manger ?
Non, merci.
Damia. Damia dans un clip signé Maurice Cloche, le même qui, 25 ans plus tard, se fera remarquer en réalisant Monsieur.
Et la vie a repris comme avant. Non, pas vraiment. Car depuis que Jean sent planer un mystère chez Arthur et le sent en danger, elle s'est mise à avoir de l'affection pour lui. Elle veut le soutenir, l'aider. Elle se trouve plus forte. Beaucoup plus forte que lui. Elle découvre dans le journal, 3 jours plus tard, l'article de la découverte du meurtre. Il a dû sûrement la tuer par jalousie. Elle découpe l'article avec les ciseaux et les met dans le portefeuille. Elle n'en parlera pas à Arthur. Pourquoi a-t-elle pensé que c'était lui l'assassin ? Parce qu'elle veut qu'il y ait entre Arthur et elle une passion furieuse, et que cette passion se soit terminée en drame, comme dans les films. Le temps passe. Arthur va mieux et a oublié. Il ne s'est pas rendu compte du changement de sa femme. Un matin, en arrivant à son bureau, il voit une nouvelle secrétaire. Elle est blonde, cheveux mi-longs, le visage très doux et un corps de jeune fille. Elle porte un pull jaune et une jupe marron.
« Bonjour, je m'appelle Arthur Guerrière, je suis le directeur commercial. »
« Moi, c'est Agathe, la nouvelle secrétaire. » Il la trouve charmante et ont bien sympathisé durant la matinée. À midi, il l'invite au restaurant.
Hey, vous avez du saucisson au beurre?
Oui.
Alors donnez-moi une salade de tomates.
Elle n'a pas été longue à prendre le courant. Hein. Rien qu'à la voir aller et venir, j'ai mal dans les jambes.
René.
Oui.
Une carafe d'eau.
Cette jeune fille le change et le rajeunit. Pendant le repas, ils font plus ample connaissance.
Vous êtes lyonnaise ?
Oui, en fait, j'habite Villeurbanne.
Seul ?
C'est un véritable interrogatoire ?
Pardonnez-moi.
Elle sourit. Oui, seul. Depuis la mort de mon père, qui vivait avec moi après son veuvage. Et vous ?
Moi, je suis mariée. J'ai une femme.
Pas d'enfant?
Non, ma femme et moi, je ne suis pas vraiment cela. Elle a un caractère très difficile.
C'est peut-être qu'elle vous aime?
Elle le montre d'une drôle de façon.
Il soupire.
Vous avez un fiancé, vous?
Non, ni fiancé, ni ami. Mon corps est libre.
Jamais connu l'amour?
Non, mais parlons d'autre chose.
Et chez vous,
je ne voulais pas que vous vous installez quelque temps parmi nous en Bourgogne.
Oui, certains.
Lorsqu'il rentre chez lui le soir, sa femme l'irrite. Pourtant, elle fait tout pour lui être agréable. Les jours passent. Lui est toujours irrité par sa femme. Agathe le trouve charmant et touchant avec son côté gauche. Un soir, au restaurant, elle décide de le mener chez elle. Faut pas qu'ils me prennent pour une idiote. Nous en avons tous deux envie. À la sortie du restaurant, elle lui dit : si vous voulez, vous pouvez me raccompagner chez moi. Et pour vous remercier, je vous invite à boire un verre.
Si cela vous fait plaisir.
Oui, autrement, je ne vous l'aurais pas proposé. Elle habite un immeuble moderne près des gratte-ciel. Son trois pièces est au deuxième étage, les murs en blanc, les meubles rustiques. Une fois qu'ils aient bu un verre au salon, elle lui dit : C'est l'instant critique où, en général, les scénaristes de films suent à trouver quelque chose d'original. Que doivent-ils faire après avoir bu un verre pour qu'ils puissent se retrouver dans la chambre à coucher? Il regarde son verre et dit
« Cela dépend si les deux personnages ont un penchant l'un pour l'autre. »
« Moi j'en ai, et vous ?»«
Moi aussi. »
Il sourit et dit
« Cela n'avance guère des choses. »
Elle lui dit « Oui, tous un peu. » Se lève. Et dit « Si vous voulez voir ma chambre ?»«
Oui. »
Il se lève. Elle lui prend la main et le guide jusqu'à sa chambre. Au milieu de la pièce, elle lui dit « Le plus dur est fait. »
« Vous croyez ?»«
Oui. » Elle met les mains dans son dos et lui tend les lèvres. Il l'embrasse, la prend dans ses bras,
Agathe, vous êtes merveilleuse,
l'embrasse, lui caresse le dos, met les mains sous son pull et le lui enlève. Elle fait descendre sa jupe. Il la prend dans ses bras et l'allonge sur le lit en la couvrant de baisers. Elle lui enlève sa cravate et lui déboutonne sa chemise. Deux heures plus tard, ils sont allongés sur le lit. Elle est contre lui, il lui caresse les cheveux.
« Agathe, j'ai décidé une chose. Je veux vivre avec toi. »
Elle sourit. « Déjà, mais tu me connais à peine. »«
Tu ne crois pas au coup de foudre ?»«
Si, bien sûr. »«
Je t'aime et veux me marier avec toi. » »«
Attendons un peu. »«
Tu ne m'aimes pas. »
Aussi je t'aime. Mais il y a ta femme.
Ma femme, j'ai fini depuis longtemps. Je veux bien en parler. Je vais lui en parler d'ailleurs. Il le faut. Un divorce, cela prend du temps.
Agathe est heureuse, mais inquiète. Heureuse qu'il aime, inquiète à cause du divorce. Le lendemain, qui est un dimanche, Arthur et Jeanne sont au salon après avoir pris leur petit déjeuner. Arthur nerveusement fait les 100 pas. Sa femme est assise en feuillette le monde.
Jeanne, j'ai à te parler.
Elle lève la tête et lui dit « Oui ?»«
Je veux divorcer. »
Elle reçoit cette nouvelle comme une balle. « Divorcer, pourquoi ?»«
Parce que j'en ai assez de toi, de tes crises, de ton égoïsme. »
Comment tu me parles de la sorte, moi, qui me suis sacrifié pour toi?
Oui, je sais, ton argent.
Elle se lève. Non, ce n'est pas de cela. Je n'ai rien dit. J'ai tout accepté, même l'inacceptable.
Que veux-tu dire? Des soi-disant soupçons de femme hystérique? Tu es folle, ma pauvre Jeanne. Ta jalousie est maladive.
Je suis folle, c'est cela. Il se penche vers elle.
Écoute, nous quittons, bons amis. Je te laisse tout.
Même mes larmes et ma rancœur.
Ne sois pas idiote.
Je me suis sacrifié pour toi.
Et moi, Tu ne crois pas que je ne me sois pas sacrifié aussi?
C'est pour une autre que tu me quittes.
Oui, tu vois, je te dis tout.
Puisque tout est dit, comme tu dis, moi, je n'ai plus... qu'à dire mon dernier mot.
Et elle sort de la pièce.
Arthur se sent soulagé. Il a dit ce qu'il devait dire. Durant tout le dimanche, elle est restée enfermée dans sa chambre. Il a dormi sur le canapé du salon et le lendemain matin, il est parti travailler.
Deux heures plus tard, John est sorti de sa chambre, habillé d'un tailleur bleu marine et à la main un sac à main. Elle est pâle, sort de l'appartement.
Dehors, il pleut. Elle marche d'un pas décidé. Et entre dans un commissariat.
Dans le commissariat.
J'aimerais parler au commissaire.
C'est pourquoi?
C'est au sujet d'un crime.
Veuillez attendre un moment.
L'homme sort de la banquette et entre dans une pièce.
Il en ressort et dit:
Madame, veuillez me suivre.
Elle le suit.
Le commissaire est à sa table. C'est un homme maigre, cheveux gris.
Madame, vous désiriez me voir?
Je vous écoute. Asseyez-vous.
Une fois qu'il lui a tout raconté, le commissaire soupire.
Vous avez des preuves?
Je vous ai amené ceci.
Il sort de son sac le portefeuille et le lui tend. Il ouvre, voit les papiers.
Nous allons vérifier cette affaire. Attendez-moi.
Et il sort de la pièce.
Toute l'après-midi, elle est restée au commissariat.
Elle est lasse.
Le commissaire lui dit:
ce que vous nous racontez nous intéresse. Nous allons interroger votre mari.
Arthur, le soir, ne retrouve pas sa femme. Il n'est pas inquiet. Et le lendemain matin, à 8 heures,
deux policiers viennent le chercher. Il ne comprend rien à ce que lui dit le commissaire, mais finit par reconnaître le portefeuille.
La police fait une enquête dans le quartier où habitait Clara. La concierge le reconnaît. La police, après la découverte du corps, a pris les empreintes. Il y a plein d'empreintes d'Arthur.
Maintenant, je me souviens. Je suis allé chez Gel. J'avais bu. Cela faisait deux, peut-être trois jours que j'avais trouvé le portefeuille. La photographie m'avait fasciné. Je la trouvais belle, belle. Je suis monté chez elle. La porte était ouverte. Je suis rentré. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait cela.
Vous ne savez pas pourquoi vous l'avez tué ?
Non, je ne sais pas pourquoi. J'ai nettoyé le sang, tout ce sang. C'était laid, tout ce sang. Je voulais que tout soit net. J'ai agi comme si c'était moi qui l'avais tué. Cela me donnait le moyen de sortir de ma vie, de ma médiocrité. S'il n'avait pas été ivre, je n'aurais pas perdu la mémoire. Je me serais dénoncé. Et maintenant ? Maintenant, ce n'est plus la même chose. Ma vie a changé. Je suis innocent.
Il a été reconnu coupable et a eu 20 ans de réclusion criminelle. Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique Sang d'ivresse pour la vie, un scénario original de Julien Jean-Pierre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement, C, V, R.